La porte ouvre sur un autre petit escalier en pierre qui descend à pic dans une grande pièce voûtée. Une très forte odeur de pomme, mêlée à celle de l'humidité, prend toujours Marlowe à la gorge les premières minutes. Allez, assieds-toi. Assieds-toi donc là-dessus, et que ça saute. Marlowe s'assied sur un gros bout de bois posé sur la terre battue, et baisse les yeux pour ne pas regarder l'étalage de centaines de pommes posées sur de grandes palettes. Tiens, allez, mange. Qu'est-ce que t'es laide, ma pauvre fille. Et il lui jette quelques pommes qui tombent dans la terre après avoir glissé sur ses genoux. Allez, ramasse. Et que ça saute. Mange, allez. Marlowe reste interdite, incapable de la moindre réaction. Elle n'a pas envie de pleurer, ni de crier, ni de se débattre. Mais reste là, les yeux plantés dans la terre. Alors le grand-père se lève et en agitant son gros bras au-dessus de sa tête, commence à la menacer. S'apprécie, mange ta pomme, ramasse. Marlowe se baisse, tend sa main et ramasse le fruit plein de terre. Elle le fixe quelques secondes en se disant qu'elle n'y arrivera jamais. Qu'elle n'arrivera jamais à mettre et la terre et la pomme dans sa bouche. Elle prend sa respiration, ferme les yeux et pense très fort au petit magnéto de sa copine Céline. Elle se dit que si elle en avait un, elle enregistrerait tout le bruit qu'il y a à l'intérieur en ce moment. Qu'elle enregistrerait aussi le bruit des dents sur la pomme et les petits craquements aigus qui sortent de sa bouche quand elle mâche la terre. Pour ne pas oublier le bruit que ça fait. La terre dans la bouche, la terre qui résonne jusque dans son crâne quand elle frotte ses dents les unes contre les autres, la terre qui se colle aux lèvres et à la pomme, la langue que surtout il ne faut pas sortir, la langue qui ne doit pas toucher les lèvres pour ne pas toucher la terre, l'envie de vomir, cette pomme qu'il faut qu'elle mange jusqu'au trognon, sinon ça va mal finir. Alors, encore les dents contre la terre, les craquements qui sortent de la bouche, les crissements aigus qui remontent jusque dans le crâne, et la pomme qui tombe à terre, encore une fois. Maintenant, c'est l'odeur de la goutte mêlée à celle de la pomme et de la terre et de l'humidité. L'envie de vomir, toujours plus forte. Quand le grand-père a la tête basculée pour finir son verre, Marlowe en a profité pour cracher la terre restée entre ses dents. Mais il vient de rejeter la pomme dedans, dans le crachat mêlé à la terre. Le trognon est encore loin. Fermer les yeux, tendre le bras, reprendre la pomme. Continuer, continuer de manger la terre et la pomme. Le soir, la mère de Marlowe passe la voir chez ses grands-mères en sortant du travail. Quand elle est chez l'autre, elle attend ce moment comme on attend un miracle. Les yeux rivés sur la pendule de la cuisine, elle guette, elle tend l'oreille. Puis tout à coup, elle entend le son dans l'escalier. Elle l'aurait reconnu entre mille. Un pas vif, accompagné du son cristallin de ses talons très fins, très hauts. Des talons aiguilles. Sa maman porte des talons aiguilles. Une équilibriste. Marlowe retient son souffle en attendant qu'elle frappe les deux petits coups secs. Elle garde les yeux collés sur la porte et clac, clac. La porte s'ouvre et là, plus rien de ce qu'elle a vécu pendant la journée n'existe. Sa mère, tout juste entrée dans la salle à manger, toujours la même odeur envahit l'appartement, l'air, son cœur. Elle porte tout au long de l'hiver un grand manteau en loup blanc de Sibérie. Elle est superbe. Une diva. Au beau milieu de la cuisine sombre, aux couleurs tristes et surannées, elle apparaît comme sous le coup de baguette d'une bonne fée. Un miracle. Elle a de la gueule, ma mère. et ce loup, maintenant en contact avec la chaleur du poêle, dégage une odeur entêtante. L'odeur de la tendresse et de la fragilité. L'odeur du « tu es une reine, maman ». L'odeur du « j'ai tellement peur ». L'odeur du « j'ai tellement peur de te perdre quand tu fais n'importe quoi ». J'ai tellement peur. Cette odeur, Marlowe ne s'en est jamais défaite. Cette odeur, comme un contrepoids à toute la journée qu'elle a passée chez l'autre grand-mère. Cette odeur efface tout. Cette odeur comme un clin d'œil. La douceur existe, Marlowe. Si elle en avait les moyens, cette odeur, elle serait capable de la reproduire semblable à l'original. Si elle pouvait retourner se réfugier dans un souvenir, elle se jetterait à corps perdu dans celui-là. Retourner dans l'odeur du loup de sa mère, dans la chaleur de l'hiver. Pourquoi cet enfant est sur tes genoux? Il y a une chaise, là, juste à côté. Pourquoi il n'est pas sur la chaise? Regarde, j'en ai une moi aussi. Regarde, je m'assieds et je suis très bien sur cette chaise. Mais il en reste une, il peut s'asseoir. Il y en a quatre des chaises et on est trois. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop de chaises dans cet appartement pour s'empiler ainsi les uns sur les autres. Et pourquoi tu lui caresses les cheveux comme ça? Il a mal à la tête? Tu vas lui mettre son pyjama? Mais pourquoi? Il peut pas le mettre tout seul, son pyjama? Tu lui as fait un gratin. Et moi? J'en fais aussi du gratin. Tes yeux dans les siens. Il sourit, les caresses encore. Tu souris, tu n'es pas beau. Tes gestes sont lents, tendres. Tu es laid. Il veut que tu lui dises si c'est cher des guirlandes de Noël. Tu souris. Tu lui réponds que ça n'est pas son problème. Que s'il veut qu'on achète des guirlandes de Noël, on en achètera. Que tous les enfants aiment les guirlandes de Noël. Et que c'est d'accord. Demain, on ira. Il n'a pas à se préoccuper des questions d'argent. C'est un enfant. Il les veut bleus, les guirlandes. Tu souris. J'ai horreur du bleu. Me voilà. Désolée, c'était un peu long. Chloé est tellement bavarde. Mais vous avez déjà fini? Je peux débarrasser? Non, laisse, je vais le faire. Mais je fais quoi, moi, si je débarrasse pas? Ça n'est pas négociable. Je débarrasse. Reste encore un peu comme ça. Tu le fais si bien. Et il faut que je me gave de ce tableau. Que je repère l'expérience que ce putain d'objet va provoquer dans ce musée d'art moderne où je ne comprends rien. Que je ne détourne pas les yeux. Que je vous frôle. Que je vous contourne. Que je vous respire. Que je vous goûte. Que je vous dévisage, que je me remplisse de tous ces gestes que vous avez tous les deux, jusqu'à l'indigestion. Ces gestes qui sont pour moi l'expérience, la seule. Ces gestes qui sont autant de griffures sur mon corps. Une main délicatement passée dans les cheveux. Ces gestes comme une déchirure. Un sourire à la fois tendre et complice. Ces gestes comme un couteau tourné et retourné à l'intérieur de mon ventre jusqu'à ce que le sang jaillisse de ma bouche, que je me remplisse jusqu'à en vomir, que je me remplisse de toute cette douceur que tu lui donnes, que je la transforme en boue et que je vous la lance à la gueule. Il a quel âge? 8 ans? Et tu penses que c'est un âge pour recevoir de la tendresse? Je savais que ça arriverait un jour. Mais pourquoi tu me fais ça? Il est si jeune, il n'en a pas besoin. Et son regard, planté dans le tien, avec cet amour qui te trouble la vue, qui me trouble la vue, qui fait tout basculer, qui fait tout vaciller. Cet amour qui me donne mal au cœur. Reviens, reviens, je t'en supplie. Je n'aime pas ton regard. Je n'aime pas ton sourire. Je te trouve laid. Ça n'est pas toi. On t'a enlevé. Reviens. Et toi, sale môme, fous le camp. Remballe ton sourire de merde et fous le camp. Avec ton demi-sourire d'hypocrite. Tu crois que j'y crois, moi, au sourire des enfants ? Je n'aime pas les guirlandes. Je n'aime pas le bleu. Je n'aime pas les guirlandes bleues. Je n'aime pas le gratin. Allez, fous-le dehors. Il pleut même pas. Quand elle arrive, sa mère ne rit pas. Elle a un grand regard triste et des cercles noirs autour des yeux. Elle a préparé un bon repas, un rôti de porc avec des champignons. Elle ne s'est pas étonnée d'avoir trouvé ce rôti de porc dans le frigo. Marlo est allée l'acheter à midi en sortant de l'école. Elle se doutait que sa mère n'aurait certainement pas le temps de faire des courses après sa réunion. Et que si le repas n'était pas prêt, ça pouvait mal finir. Elle rit toujours beaucoup après ses réunions tardives. Apparemment, celle-ci n'était pas drôle. Le plat fume encore sur la table. Sa mère est assise devant, seule. Le père est enfoncé dans son fauteuil devant la télévision hurlante. Il n'a pas prononcé un mot depuis 18 jours. Demain, 19. Son record, c'est 32. Il s'entraîne beaucoup. Marlo ne sait pas trop comment faire. Elle n'ose pas parler à sa mère. Elle n'est d'ailleurs pas sûre qu'elle se soit aperçue qu'elle est là. Ou comme souvent, pas aperçue qu'elle n'aurait pas dû être là. Elle décroche le téléphone pour appeler sa grand-mère et lui dire une fois encore combien c'était chouette d'être avec ses parents, qu'elle ne l'attende pas. Son père en profite pour rejoindre la cuisine. Il a les lèvres serrées, le fil barbelé entre les dents. À chaque fois qu'il perd l'usage de la parole, il a ce barbelé qui lui barre le visage. Ça doit lui faire mal. Il a les sourcils froncés, comme réunis par un gros élastique qui ne peut plus se détendre. Son regard est noir, un regard à vous lever le cœur quand il croise le vôtre. C'est avec tout ce matériel sur le visage qu'il arrive dans la cuisine. Il se plante devant le plat, déchiquette la moitié du rôti, le porte à la bouche et le recrache dans son assiette. C'est dégueulasse. Il a parlé. Sa mère se met à pleurer, doucement d'abord, puis de plus en plus fort, crescendo, jusqu'à hoqueter de gros sanglots de plus en plus rapprochés. « C'est pas grave, maman. Moi, je le trouve bon, ton rôti. » Elle a beaucoup réfléchi. Maintenant, elle sait. Le silence, le rire de sa mère, Jack, la boule dans son ventre, les pleurs de sa mère, elle ne peut pas la laisser tomber. Même s'il y a aussi les pommes dans la cave et la pluie dans la cour, la boule dans son ventre et la pomme dans la terre.